Vous écoutez, on lit pour vous.
Soleil et médicaments, prudence. Un texte d'Emmanuel Mosaïan-Verchev, publié le 15 mai 2023 dans Verdict Santé. Vous aimez profiter des rayons du soleil, mais, comme vous le savez, il vaut mieux vous y exposer de façon modérée. C'est encore plus vrai si vous prenez certains médicaments qui peuvent augmenter votre sensibilité à la chaleur et au soleil, notamment en accentuant la déshydratation ou en provoquant une inflammation, voire une nécrose de la peau. Voyez comment leurs effets se manifestent, de quelle façon les soigner et quoi faire pour les éviter. Sommaire de l'article. Attention à la déshydratation. Des effets photosensibilisants, des familles de médicaments concernés pour éviter les désagréments, que faire en cas de brûlure, choisir une bonne crème hydratante, ranger les médicaments au sec et au frais. Attention à la déshydratation. Le pharmacien Yann Gosselin-Gaudreau explique que certains médicaments jouent par exemple sur la fonction rénale et peuvent rendre les gens plus sensibles à la déshydratation. Ainsi, si vous prenez ce type de médicament, vous aurez plus tendance à vous déshydrater si vous ne buvez pas suffisamment, ce qui est susceptible de causer des débalancements métaboliques ou une insuffisance rénale aiguë. C'est le cas notamment des traitements contre le diabète, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Dans ce dernier cas, les utilisateurs doivent souvent restreindre leur consommation de liquide et sont donc déjà plus à risque de déshydratation. Si en plus il fait chaud, la situation est à risque de dégénérer rapidement. Plus de fatigue, des palpitations et même de la confusion chez les personnes âgées peuvent être des signes de déshydratation, dit le pharmacien. Comment y remédier? Tout d'abord, suivez les recommandations de votre médecin ou pharmacien et dans tous les cas, ne sortez pas quand il fait trop chaud. N'entreprenez pas non plus de faire du sport par une chaleur accablante. Des effets photosensibilisants. Plusieurs médicaments, une fois transformés par votre organisme, provoqueront une réaction cutanée excessive si vous vous exposez au soleil. Il y a deux types de photosensibilité. La phototoxicité et la photoallergie, précise la docteure Marie-Michèle Blouin, dermatologue. La première est beaucoup plus fréquente que la seconde car elle peut toucher tous ceux qui prennent un médicament rendant sensible aux rayons ultraviolets, UV. Dans les cas de phototoxicité, un coup de soleil très marqué apparaît. Le médicament en cause circule dans votre système sanguin, absorbe les rayons UV, principalement les UVA, parfois les UVB, et entraîne une vive réaction de votre peau. Le résultat? Une inflammation sévère qui peut aller jusqu'à la nécrose, mort des cellules de la peau, équivalent à une brûlure au premier ou au deuxième degré. La photoallergie ne touche quant à elle qu'un petit pourcentage de gens dont le système immunitaire est sensibilisé au soleil. Dans le langage médical, on parle de réaction d'hypersensibilité de type 4, qui se manifeste par une forme d'eczéma, souvent des plaques sèches rouges aux zones exposées au soleil. Des familles de médicaments concernées. Voici des familles de médicaments qui peuvent entraîner la phototoxicité. Les antibiotiques, plus particulièrement les quinolones, les tétracyclines, les fluoroquinolones, doxycycline et cipro, par exemple, et les sulfamides, septra, etc. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, comme l'ibuprofène, Advil et Motrin, par exemple, et le naproxène, Aleve, Celebrex, etc. Les antiarythmiques, tels l'amiodarone et le diltiazème, et apodiltiase, entre autres exemples. Les antihistaminiques, comme la cyproheptadine, périactin, par exemple, et la diphénhydramine, Benadryl, etc. Les diurétiques comme le furosémide, la ZIC, par exemple, et l'hydrochlorothiazide. Les hypoglycémiants, tels que les sulfonylurées, diabéta et gluconorme, entre autres exemples, les antituberculeux, certains médicaments contre le paludisme, certains immunodépresseurs, Imuran, Metoject et Purintol, par exemple, certains agents anticancéreux, notamment les vermurafenib, les antihypertenseurs, valsartan et pirindopril, par exemple, les médicaments contre le cholestérol, ezetrol, lipidyl et lopide, entre autres exemples, certains antidépresseurs comme la sertraline, Zoloft, duloxétine, etc., et antipsychotiques, notamment les phénothiazines. Certains anxiolytiques tels que l'alprazolam, Xanax, par exemple, pour éviter les désagréments. Si vous prenez un médicament reconnu pour la photosensibilité qu'il suscite, suivez les conseils suivants de la docteure Blouin. Ne vous exposez pas au soleil, surtout entre 10h et 14h, puisqu'il est alors à son zénith. Portez un chapeau à large rebord, des manches longues et des lunettes de soleil. Vérifiez l'indice UV. Lorsqu'il est élevé, il vaut mieux ne pas aller à l'extérieur ou alors rester à l'ombre. Appliquez un écran solaire d'un indice supérieur à 30 toutes les 2 heures, de même qu'après la baignade. Prenez vos médicaments en soirée plutôt que le matin pour atténuer la photosensibilité si votre médecin ou votre pharmacien vous autorise à le faire. Respectez les instructions indiquées sur le médicament ou par le pharmacien. S'il s'agit d'un médicament d'ordonnance réputé pour la sensibilité au soleil, photosensibilité, qu'il cause, le pharmacien l'inscrira sur le contenant. Que faire en cas de brûlure? Si vous constatez un effet coup de soleil sur votre peau, la docteure Marie-Michèle Blouin vous recommande de mettre des compresses humides d'eau tiède ou froide sur la partie affectée, puis d'appliquer une crème hydratante régulièrement. Un bon truc, réfrigérer la crème afin qu'elle soit plus froide et plus efficace pour soulager autant la douleur que la sensation de chaleur associée à la lésion. Quelques bulles ou vésicules se sont formées sur votre peau? Consultez un pharmacien. Si l'étendue des brûlures est importante, voyez plutôt un médecin. Entre-temps, appliquez des compresses humides, tièdes ou froides sur la peau, puis un onguent antibiotique ou de la vaseline avant de couvrir le tout d'un pansement non adhérent. Sauvez votre peau. Une personne rousse, au teint pâle, sera plus sujette à réagir à des médicaments photosensibilisants qu'une personne qui a la peau foncée plus résistante. Dans ce dernier cas, restez tout de même vigilant, car vous pouvez aussi avoir des coups de soleil. Seulement, ils se verront moins. Choisir une bonne crème hydratante. Privilégiez une crème hydratante non parfumée qui est exempte d'agents allergisants, donc un produit hypoallergénique pour peau sensible contenant idéalement des céramides, acides gras. Si vous devez soigner votre enfant, suivez le même processus, mais choisissez une crème spécialement adaptée à la peau des tout-petits. Rangez les médicaments au sec et au frais. Bon nombre de médicaments peuvent être sensibles à la chaleur, et c'est souvent lié à leur forme pharmaceutique. En règle générale, les comprimés sont plus résistants que les liquides ou les gélules. Celles-ci se dégradent plus facilement, car la gélatine a tendance à fondre, souligne le pharmacien Yann Gosselin-Gaudreau. Par ailleurs, un antibiotique liquide pour enfants laissé à la chaleur risque d'être moins efficace, car une séparation de phase peut survenir. Pensez à un pot de crème laissé au soleil. La crème se sépare alors en une phase huileuse et une sorte de phase de précipité tout au fond. Certains médicaments photosensibilisants qui se dégradent rapidement à la lumière sont d'ailleurs emballés dans des enveloppes pelliculées ou des plaquettes métalliques. Entreposez vos médicaments dans une armoire fermée, inaccessible aux enfants, dans un endroit frais et sec. Évitez la salle de bain où l'humidité est omniprésente. C'était « Soleil et médicaments, prudence », un texte d'Emmanuel Mosayan-Verchev, paru le 15 mai 2023 dans Verdict santé.
Former une famille quand on appartient à la diversité sexuelle et de genre, des balados instructifs à partir de témoignages. Un texte de Denis Daniel Bouillé, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue. La coalition des familles LGBTQ+, n'a jamais cessé depuis deux décennies de parler de ces familles dites « différentes ». Représentation dans des commissions parlementaires, participation à des conférences, mais surtout être présente pour toutes celles qui, gays, lesbiennes, trans, souhaitent devenir parents-parentes. La coalition a donc développé une expertise, non seulement à partir de recherches, mais surtout sur le terrain, avec les premiers et les premières concernées. Pour rejoindre encore plus de monde, elle a décidé de produire et de mettre en ligne des balados qui font le tour de la question en donnant la parole à des familles issues de la diversité sexuelle et de genre. 34 familles ont bien voulu ouvrir leurs portes pour s'entretenir avec Lani Trilen et Mona Greenbaum sur la famille qu'elles ont construite, le tout enregistré et monté par Henri June Pilote qui signe ses balados. Pour moi, la famille, c'est la vie. C'est un chaos plein d'amour. Ainsi commence l'un des premiers balados qui résume bien l'engagement, le désir, mais aussi la satisfaction d'avoir créé des familles différentes de la norme. Nous avons choisi l'éventail le plus large possible des différentes familles possibles, précise le réalisateur Henri June Pilote, avec des parents-parentes du même sexe, des parents trans, mais aussi des parents de la diversité qui sont racisés pour que chacun-chacune puisse s'y retrouver. De même, les balados traitent de toutes les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à ces couples pour devenir parents-parentes. On y aborde l'insémination maison, l'insémination dans les cliniques, l'adoption via la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, l'adoption internationale, la gestation pour autrui, GPA, et la coparentalité, continue Henri June Pilote, puisque, contrairement aux générations précédentes, de personnes de la diversité qui avaient fait le deuil de l'enfant, de plus en plus de couples plus jeunes de la diversité sexuelle et de genre souhaitent fonder une famille. En fonction de son couple, il existe plusieurs avenues possibles, mais les défis, voire les écueils sont nombreux. Et ils commencent bien avant l'arrivée de l'enfant. Quand il est question d'adoption ou encore de GPA, le temps joue un rôle important. Il est aussi question de coûts, parfois élevés, pour enfin tenir dans ses bras celle ou celui qui donnera un sens à la vie de plusieurs. Et puis, comme le souligne très justement Henri June Pilote, il y a tout le travail de reconnaissance de ces familles dans l'univers social. Cela ne commence pas seulement avec le système de santé et le système d'éducation, mais parfois dans les propres familles des parents de la diversité sexuelle et de genre, avec les frères et sœurs, les parents ou encore la famille élargie, qui ne comprennent pas toujours que de telles familles puissent exister, ajoute le réalisateur. Cela demande aux parents-parentes d'être fiers et out en tout temps et devant tout le monde pour défendre leur famille. Cependant, un constat s'impose à l'écoute des témoignages. L'isolement, quand on se lance dans un tel projet, peut alourdir la démarche. Quand on est en région, par exemple, et que l'on sait qu'il n'y a aucune famille semblable aux alentours, on peut se sentir bien seul, tout comme lorsque le processus prend du temps ou que l'on n'est pas à l'aise avec toutes les démarches à faire. Il est important de développer un réseau et de profiter de l'expérience et de l'expertise des autres, conclut Henri June Pilote. En ce sens, la coalition des familles LGBTQ+, devient un pôle central, non seulement pour les conseils prodigués, mais aussi à titre de lieu de rencontre des familles LGBTQ+, pour parfois simplement socialiser. Avec un plus toutefois, leurs enfants rencontrent d'autres enfants qui vivent dans des familles différentes, mais elles ne sont pas seules. La coalition organise de nombreuses rencontres festives où parents et parentes et enfants se retrouvent. Une chose est certaine, devant les défis à relever, tous les enfants qui se retrouvent au sein de ces familles ont été réellement désirés. Ils ne sont pas, comme c'est encore trop souvent le cas aujourd'hui, le fruit d'un accident. Info baladoquebec, en un mot, .ca, / pour-moi-la-famille. C'était former une famille quand on appartient à la diversité sexuelle et de genre, des balados instructifs à partir de témoignages. Un texte de Denis-Daniel Bouillet, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue.
L'industrie des boissons alcooliques, un fleuron de l'économie québécoise en évolution, un texte de Jacques Ouimet, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3. Ce n'est pas d'hier que les boissons alcooliques suscitent de l'intérêt. La petite histoire nous apprend que le Viking, Leif Erikson, aurait visité l'Amérique du Nord peu avant l'an 1000 à bord de son drakkar. Il aurait nommé Vinland, la terre des vignes, la région de l'est de l'Amérique du Nord, s'étendant de Terre-Neuve jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, en raison des nombreux plants de vignes sauvages que l'on y trouve. Plus tard, Jacques Cartier a nommé l'île d'Orléans l'île de Bacchus, car « Itrevasme force vigne » en septembre 1535. Cela dit, la première tentative d'implanter une brasserie à Québec revient aux Jésuites. Dès ses débuts, en 1647, cette production répond aux besoins de la communauté. Il faut attendre 1668-1669 pour assister à l'édification d'une brasserie industrielle à Québec par l'intendant Jean Talon. En 1786, John Molson, Molson Coors, fonde sa première brasserie à Montréal. À la même époque, et en utilisant souvent la même matière première, malt d'orge, des brasseurs ouvrent des distilleries à Beauport, à Trois-Rivières et à Montréal. La Saint-Roch Distillery a été la première à voir le jour à Québec en 1769. C'est surtout au 19e siècle que l'industrie brassicole prend son envol. John Knight Boswell, Dow, ouvre sa brasserie à Québec en 1844. Mais celle-ci sera acquise par Molson. D'autres brasseries concurrencent cette dernière. Mentionnons celle de John Kinderlabatt, qui sera acheté par Interbrew en 1995. Le Québec crée la Commission des liqueurs en 1921 et devient la première province canadienne à légiférer afin d'encadrer le commerce et l'approvisionnement de l'alcool. Le Québec devenait alors un carrefour important du marché des spiritueux en Amérique. Samuel Bronfman en profite pour fonder la Distillers Corporation à Montréal en 1924. Celle-ci fusionne avec la compagnie Seagram en 1928 et devient un géant de l'industrie de l'alcool et le plus grand distillateur au monde. Les boissons alcooliques artisanales. Après l'échec du cidre industriel dans les années 1970, attribuable essentiellement à des problèmes d'image, de qualité et de positionnement du produit, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Québec, MICT, Rodrigue Biron, autorise en 1983 la production artisanale de boissons alcooliques. Malgré les caprices du climat québécois et les réserves de certains intervenants de l'époque, il réussit, grâce à sa fougue et à sa détermination, à convaincre le Conseil des ministres des avantages de cette production. Celle-ci englobait alors le vin, le cidre, la bière, les boissons à base de petits fruits et les mistels, mous de fruits fortifiés avec de l'eau de vie. En 1982, le ministre Biron autorisait la réalisation d'un projet pilote de 5 vignobles sur une durée de 2 ans afin de s'assurer de la vivacité de la vigne au Québec. Il croyait vraiment au développement de la petite entreprise ainsi qu'au développement régional et touristique. Afin d'éviter les problèmes vécus avec le cidre industriel, les coordonnateurs du projet s'inspirent des pratiques qui ont cours en Ontario, en Californie et en Europe, particulièrement en France, pour accompagner et encadrer, réglementer, la production artisanale de boissons alcooliques au Québec. Les coordonnateurs, chapeautés par le MICT, priorisent au départ l'échange, la concertation et le regroupement entre les différents intervenants gouvernementaux et les personnes et entreprises productrices. Il fallait que les producteurs soient reconnus comme producteurs agricoles, sauf pour la bière. En matière de regroupement, il fallait favoriser l'implantation de quelques producteurs dans une même région, dont celle de Dunham, pour les vignobles. Enfin, le regroupement au sein d'associations de producteurs permettait l'échange et le partage d'informations. Cette dernière pratique s'est maintenue, ce qui constitue une des forces des producteurs québécois. Fort heureusement, de nouveaux producteurs, des experts d'origine européenne, dont des œnologues français, ont accepté de partager leur savoir-faire avec leurs collègues du Québec. Aujourd'hui, près de 1000 entreprises détiennent un permis de production de boissons alcooliques au Québec, dont quelques 330 microbrasseries, 160 vignobles, 100 cidreries et 60 distilleries. Elles ont remporté plusieurs milliers de prix et de médailles dans des compétitions nationales et internationales. Certaines ont réussi à exporter leurs produits sur les marchés étrangers. Dunham est devenue la capitale québécoise du vin. Voici quelques-uns de nos coups de cœur pour vous inciter à découvrir ces producteurs et à goûter à leurs produits. Les microbrasseries Archibald, Lac-Beauport, Oval, Val-d'Espoir, Charlevoix, Baie-Saint-Paul, Dunham, Dunham, La Fabrique, Matane, McCausland, Montréal, Ralbock, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pancras, Baie-Comeau. Les vignobles Cep d'Argent, Magog, Château-Sainte-Agnès, Sutton, Côte d'Ardoise et Orpailleur, Dunham, Marathonien, Hemingford, Rivière-du-Chêne, Saint-Eustache, Sainte-Pétronille et Cassis-Mona et Fille, Île-d'Orléans. Les cidreries du Minot, Hemingford, Michel-Jaudouin, Rougemont, et Clos Saragnat, Frélixburg, les hydromêleries Ferme Apicole Desrochers, Ferme Neuve, et Miellerie King, Kinsey Fall, ainsi que les micro-distilleries telles que Côte des Saints, Mirabel. La progression de l'industrie des boissons artisanales doit beaucoup à ses visionnaires et à ses promoteurs, tels que le ministre Roderick Biron et les experts d'origine européenne. Dans les années 1983-1990, ces derniers ont encouragé la production de cidre, de vin et de bière artisanale. Cette progression, nous la souhaitons à toutes les personnes et entreprises productrices, notamment en ce qui a trait à l'exportation de leurs produits. C'était L'industrie des boissons alcooliques, un fleuron de l'économie québécoise en évolution, un texte de Jacques Ouimet, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.
Une politique juste et équitable pour tous. un texte d'André Laroche paru le 4 août 2023 dans La Terre de chez nous. La ferme Duquette ne dispose que de 4 employés, dont un seul à temps plein, mais cela n'a pas empêché sa propriétaire de se doter d'une politique de gestion de ressources humaines en bonne et due forme. À peine sortie de l'école en 2002, Suzanne Duquette a pris la relève de son père à la tête de la ferme familiale à Sainte-Julienne, dans Lanaudière. Fondée par son grand-père, l'entreprise s'est spécialisée dans la production porcine et de grandes cultures sous la direction de son père dans les années 1980. « C'est important pour moi que tout le monde soit heureux d'entrer travailler. » Suzanne Duquette. À ses débuts, la jeune femme a pu compter sur l'aide de ses parents pour les travaux agricoles jusqu'à leur retraite, quelques années plus tard. C'est à ce moment qu'elle a senti le besoin de mettre de l'énergie dans sa gestion des employés, raconte-t-elle. L'agricultrice n'a donc pas hésité à participer à des programmes d'apprentissage en milieu de travail, PAMT, afin d'améliorer ses compétences et pour mettre en place une politique d'emploi transparente et équitable pour tout son monde. Avec l'aide du Centre d'emploi agricole de Joliette, on a établi un diagnostic et on a mis en place une procédure avec un manuel de l'employeur et une grille salariale. On a mis sur papier les conditions de travail et un mode d'évaluation, explique Mme Duquette. Cela enlève le côté arbitraire pour déterminer les salaires. La personne plus timide à demander une augmentation de salaire ne sera pas désavantagée, ajoute-t-elle. Dès le recrutement d'un employé, le reste de l'équipe est impliqué dans la répartition des tâches en fonction des intérêts de chacun. Cette bonne communication permet à des travailleurs d'exprimer leurs envies et leurs ambitions. Un PAMT sera alors mis en place au besoin. Lorsque j'ai perdu mon technicien d'entretien, mon ouvrier à la porcherie s'est dit intéressé par ces tâches-là. On a donc modifié sa charge de travail pour qu'il veille au fonctionnement des équipements, illustre Suzanne Duquette. Cette dernière accorde également à ses employés une flexibilité d'horaire pour les aider à concilier le travail et la famille. Et lorsque les objectifs périodiques sont atteints, elle n'hésite pas à ramasser la facture de la pizza pour tout le monde. « C'est important pour moi que tout le monde soit heureux d'entrer travailler », insiste-t-elle. C'était « Une politique juste et équitable pour tous », un texte d'André Laroche, paru le 4 août 2023 dans La Terre de chez nous.